dans cette série de soirées que nous organisons sur les bons et les mauvais livres. Alors on va voir l'aspect de Lamartine, ange ou démon. Je laisse la parole à Marie-Renée Morin et les textes seront lus par Éric Malguir.
Lorsque Nicole m'a demandé d'intervenir sur les ouvrages de Lamartine soumis à des contraintes religieuses, politiques ou autres, je ne sais pourquoi j'ai aussitôt pensé à la citation de la méditation de Lamartine, l'homme, utilisée pour Byron, ange ou démon. Mais Lamartine, ayant toute sa vie rêvé à la gloire et à l'exemple du poète anglais, il m'a semblé alors tout naturel de lui appliquer la même définition. Ensuite, je me suis trouvée bien embarrassée pour traiter mon sujet et l'appliquer à l'œuvre diverse et abondante de 50 années d'un auteur, sans négliger, qui plus est, les données biographiques du poète et de l'homme public. Elles expliquent en effet certaines prises de position dans ses ouvrages, positions parfois violemment combattues sur le plan religieux et moral, ainsi que politique et même familial. En peu de temps, je ne peux évoquer que certains aspects, obligatoirement subjectifs. En suivant le grand homme de sa jeunesse à 1865, vous aurez donc des flashs. Né en 1790, frère aîné de 4 sœurs, Lamartine est l'espoir de toute une famille mâconnaise de petite noblesse. Adulé par sa mère, il inquiète très vite son entourage par son goût pour le jeu, les femmes et l'argent. En 1811, sa famille l'éloigne à Naples chez un cousin. Très vite, le jeune homme fait la conquête d'une certaine Antoniella, maîtresse de son parent, originaire de l'île de Procida. Dans ce cadre idyllique naît une passion, source 30 ans plus tard du roman Graziella. Dès son retour en France, Lamartine évoque Antoniella sous le nom d'Elvire, dans des élégies enflammées, objet d'un recueil achevé en 1816. Ce recueil proche des élégiaques du XVIIIe siècle, inspiré par celle qu'il appelle en 1812 « ce petit ange ardent comme un diable », ne fut pas publié. Et pourtant, quelques éléments de 1816 furent réutilisés en 1820, déjà dépoussiérés de la mythologie et des brûlures, termes fréquemment utilisés pour l'amour. Écoutez ce premier jet de 1816, évoquant les adieux de sa belle au départ de Naples.
Salut, bois couronné d'un reste de verdure. Vieux pampre dépouillé que l'automne a jauni. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes esprits. Je parcours lentement le vallon solitaire. Je veux jouir encore, pour la dernière fois, du soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, je trouve en ce jour la nature plus belle. Je vois mieux ses beautés, je sens mieux ses bienfaits. Elle va se flétrir et je jouis mieux d'elle. Les biens que je vais perdre ont pour moi plus d'attrait. Ainsi, quand je quittais la beauté que j'adore, elle parut plus belle au moment du départ. Je m'éloignais en vain, je revenais encore m'abreuver lentement de son dernier regard.
Et maintenant, ceux d'entre vous qui ont encore eu droit à une étude systématique des plus grands écrivains français vont retrouver dans son élaboration définitive l'un des 5 principaux poèmes des Méditations qui ont, en 1820, fait vibrer la France entière de Talleyrand au dernier auteur, lecteur d'agenda populaire et lancé le romantisme. Repris 4 ans plus tard, le début a bien des similitudes avec le poème de 1816, mais la tonalité a tout à fait évolué ainsi que l'inspiration.
Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire. J'aime à revoir encore, pour la dernière fois, le soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ces regards voilés, je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prête à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs. Et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux.
Disparu donc le dernier regard à Antoniella. Depuis 1816, Lamartine a connu une très grande et courte passion avec Julie Charles, épouse d'un membre éminent de l'Institut. Il se fait connaître chez les aristocrates du Faubourg Saint-Germain, fréquente Genoude, Lamennais, le futur cardinal de Rohan. Beau et fêté dans les salons, il y expérimente par des lectures en public l'effet produit par ses vers. Pour ce milieu huppé traditionnaliste, il élague ses poèmes, supprime toute allusion charnelle, se laisse aller à ses mélancolies, à des émotions vraies, à son don lyrique, à des élans vers un Dieu qui lit dans les cœurs. Le succès est immense et immédiat. La presse politique ou mondaine, les keepsakes, les recueils de poèmes, les cours de littérature jusqu'à la fin du siècle citeront le lac, l'isolement et l'automne. Il avait opéré là une première révolution littéraire. Il en connut les conséquences. Quel que soit le recueil publié jusqu'en 1840 et bien au-delà, le grand public voulait entendre cette voix dans son cœur. Je cite Lamartine. Laissant à quelques-uns ses thèmes politiques et philosophiques. Pourtant, dès 1821, Lamartine conçoit un grand poème épique. Un ange épris d'une femme est condamné à vivre sur terre en des personnages successifs, jusqu'à ce qu'il renonce aux félicités terrestres. Lamartine reprend ce projet après 1830, s'inspirant de la vie de l'abbé Dumont, son ami et voisin. Ce dernier, curé de Bussière, avait eu une liaison pendant la Révolution avec la fille du comte de Pierre-Clos et avait repris par la suite la vie ecclésiastique. Jocelyn, publié en 1836 par Lamartine, alors député, était en quelque sorte la fin de l'épopée de l'ange sous la forme d'un séminariste. Réfugié dans la montagne pendant la Révolution, celui-ci se voit confier un jeune homme de 16 ans, Laurence. On connaît l'histoire. Portant secours à Laurence accidentée, Jocelyn découvre qu'il s'est pris d'amitié et même d'amour pour une femme, alors qu'il est voué à la prêtrise. Pour la jeune femme, Dieu ne peut que bénir l'amour. Mais Jocelyn répond.
« Mais, lui disais-je encore, ne sais-tu pas peut-être qu'au veuvage du cœur, Dieu condamne le prêtre, lui défend les doux noms et d'amantes et d'époux, et qu'il n'est à personne afin qu'il soit à tous ? Que si Dieu me voulait tout à son saint office, il faudrait boire, hélas, mon sang dans ce calice, à vivre l'un sans l'autre, un jour s'habituer. Alors, dit-elle, écoute, il vaut mieux me tuer. Mais à quoi penses-tu ? Ce Dieu qui nous rassemble ne nous a-t-il pas mis par la main, seuls ensemble, perdus, nous unissant dans un exil commun, plus qu'il n'unit jamais deux cœurs, deux sorts en un ? Ne m'a-t-il pas jeté à tes bras comme on trouve l'enfant abandonné qu'on réchauffe et qu'on couve? Me rejetteras-tu froide et morte à mon sort? Lui diras-tu, Seigneur, mon frère unique est mort? Lui consacreras-tu comme un encens ta vie et la mienne? Oui, la mienne, après l'avoir ravie. J'hésitais. Elle mit ses deux doigts sur ma bouche et de son autre main, m'attirant vers sa couche, jure-moi, jure-moi, dit-elle, ô Jocelyn, à moi ta pauvre sœur, à moi ton orphelin, jure-moi mon bonheur devant Dieu qui l'ordonne. Je jure de mourir, moi, si tu m'abandonnes. Et je sens que ma vie ou ma mort en suspens va sortir de ton cœur sans le mot que j'attends. Et ses yeux sur les miens et sa bouche entrouverte imploraient, aspiraient son triomphe ou sa perte. Un regard lui donna un gage de ma foi et sur sa pâle main, ma lèvre qui se colle la retint à la vie avec une parole.
On connaît la fin. Ordonné prêtre, malgré lui et malgré leur amour réciproque, Jocelyn quitte Laurence. Le poème déconcerta, mais les inconditionnels des méditations retrouvèrent d'admirables descriptions de la vie champêtre, un amour sublimé, une religion liée à la nature. Dans l'ensemble, on vit un livre de foi et d'espérance, conforme à l'image évangélique du poète. L'accueil fut plus sévère parmi les critiques et les grands écrivains. Le comte de Lille ne vit qu'un gémissement continu, une absence de virilité, d'ardeur réelle. Pour Flaubert, la phrase n'avait ni muscle ni sang, ce qui produisait une détestable poésie inane sans souffle intérieur. L'Église réagit. Sous la Restauration déjà, puis sous la Monarchie de Juillet, la polémique était vive autour du célibat des prêtres. Articles de presse, brochures, romans, pièces de théâtre, affaires du mariage de l'abbé Dumontel, exemple du mariage des pasteurs, tout cela dénonçait la condition inhumaine du clergé. 7 mois après la parution, Jocelyn fut mis à l'index, en même temps que le récit du voyage en Orient paru l'année d'avant. Le rapport des deux ouvrages était évident. Apologie du mariage des prêtres, les maronites pour le voyage en Orient, panthéisme, égalité des religions au regard de Dieu, méfiance pour une hiérarchie ecclésiastique et pour les couvents. La condamnation fit peu de bruit, comme Philippe Boutry l'a expliqué la dernière fois. En général, l'index faisait assez peu de bruit. Mais Lamartine publia des modifications à son avertissement, puis rédigea un post-scriptum assez ambigu à la 5e édition. Puisqu'il y avait bien des prêtres orientaux, catholiques, pourquoi pas les autres. Quant au panthéisme, il renvoyait tout le monde à saint Paul, « In illo vivimus, movemur et sumus », en lui nous sommes, nous bougeons et nous vivons. En mai 1838, 2 ans plus tard, le poète député définissait à la tribune son rôle social vis-à-vis de son temps et consacrait à l'avenir, je le cite, « les idées du philosophe ou les chants du poète ». Pour cet avenir, il publiait alors La chute d'un ange, premier épisode de la grande épopée. Un ange, Cédar, s'éprend dans les temps primitifs de l'humanité d'une jeune femme de 13 ans, Daïda, dont la beauté l'émeut et le fait renoncer à sa condition. Avec leurs 2 jeunes enfants, ils auront à affronter des peuplades monstrueuses de chasseurs, puis des géants. Pendant 12 000 vers, le livre est épais, ce ne sont que poursuites et tortures. En 1834, un article de Janin avait réveillé l'intérêt pour Sade et le texte de Lamartine peut être épisodiquement considéré comme une traduction en vers de Juliette ou les prospérités du vice. Ainsi, la description des colonnes et meubles vivants dans le palais où les géants donnent un festin qui sera suivi d'un spectacle.
Sur la frise mouvante, en foule circulait un long groupe que l'art mêlait et démêlait. Femmes, enfants, guerriers, combats, amours obscènes changeaient leur attitude et variaient leur scène. Autour du fût poli des colonnes de marbre, comme le lierre en fleurs autour du corps d'un arbre qui s'enlace et serpente, et de nœuds festonnés cachent la rude écorce aux regards étonnés, des spirales en chair de jeunes formes nues s'élevaient de la base et montaient jusqu'aux nues. Leurs bras de la colonne embrassaient tout le tronc. L'une plaçait ses pieds où l'autre avait le front. Leurs membres suspendus, leurs mains entrelacées, par l'effort sur le dos, leurs têtes renversées, sur le granit poli, leurs muscles se tordant, de leurs beaux fronts en pleurs, leurs longs cheveux pendant, ce gracieux chaos de corps et de visages, ce ravissant amas de formes de tous âges, qui, de chaque colonne enlaçant le pourtour, et de chair palpitante en brodait le contour, trompait l'œil ébloui par l'infâme artifice, et faisait ressembler le magique édifice au temple de la vie, où tous les blocs mouvants seraient bâtis de chair avec des murs vivants. Pour soutenir leur dos ou buter leurs genoux, ni siège, ni carreau, ni lit, ni coussin mou n'avaient été jugés dignes de leur mollesse, et du seul corps humain la vivante souplesse pouvait, en se pliant à lire leurs moindres efforts, prêter sa complaisance au mouvement du corps. Dans ces coussins de chair, ils enfonçaient sans crainte leurs coudes, dont un corps meurtri gardait l'empreinte, sous le poids colossal de son maître étouffant, leurs flancs lourds sous sa masse écrasaient un enfant.
Un spectacle théâtral vécu sur le vif suit dans ces lieux. Au pied d'une tour dominante d'une fosse aux lions, un jeune couple prisonnier et son bébé tentent de s'échapper. L'homme parvient à se hisser en haut de la tour, aperçoit une issue et redescend chercher l'enfant. Pendant cette remontée, la jeune femme entend les cris de l'enfant et les broiements des mâchoires des lions. Elle hurle son horreur et quand son mari redescend, le croyant responsable de la chute du petit le tue à coups de chaîne. Les géants éclatent de rire. C'était une farce, un simulacre de mort. Les trois personnages sont finalement jetés dans la fosse. Applaudissements général. De nombreux supplices partent de ce même principe, de faire se torturer des personnes liées d'affection, mais placées dans la situation de se détruire. Quant à Daïda, ses tortures consistent à être exposé nu à la vue de ses bourreaux, enlacé dans des filets de fer, s'efforçant de se couvrir de ses cheveux, menacé de viol, criant sa douleur de mère dont les enfants sont enlevés et torturés, etc. Je vous en passe. Elle a pour adversaire une jeune Lakmi, fillette perverse de 12 ans. Sous le choc de cette lecture, face à cette orgie de géants, même les amis de Lamartine étaient incompréhensifs. Ses adversaires politiques triomphaient. Toutefois, certains auteurs, comme Victor Hugo, George Sand et Quinet, estimaient l'œuvre d'une majestueuse création. Pour Heredia, elle était le chef-d'œuvre épique du siècle. Elle fut mise à l'index en août 38, en grande partie surtout pour le passage où un prophète enseigne aux deux jeunes gens à adorer Dieu le Père, dont le temple est partout où s'étend la nature, et leur présente un livre primitif, proche du décalogue. Lamartine y expose, par ce biais, des principes religieux, la raison et le culte et l'autel et le monde. Des principes politiques, vous n'établirez point de juge ni de roi, et même sociaux, comme le droit à la propriété et au partage. Deux mois après la publication, l'auteur, vivement pressé par sa femme qui voyait les réactions, corrigeait déjà 2000 mots. Dans le post-scriptum de la réédition, il comparait son livre à la Divine Comédie, dont on n'aurait lu que l'enfer. Revendiquer un christianisme éclairant la raison, refuser l'accusation de panthéisme, tout autant que d'anarchisme, supprimait une centaine de vers du livre primitif. Il se rapprochait en 1839 du gouvernement et voulait faire oublier ses idées les plus avancées. Si je peux rappeler un souvenir personnel, quand j'ai fait l'exposition Lamartine en 69 à la Bibliothèque nationale, un jour où il y avait pas mal de grabuches dans la salle, j'ai demandé ce qui se passait, Et on m'a dit que c'était des Lamartiniens fervents qui hurlaient leur horreur parce que nous avions osé mettre dans la vitrine de la chute d'un ange, en ayant choisi avec beaucoup de délicatesse à la réserve pourtant l'ouvrage, Juliette, mais avec un frontispice où il y avait une descente de personnages qui n'avait rien d'indécent, on avait bien regardé, mais rien que le fait d'oser mettre ça dans la vitrine de Lamartine avait provoqué, mais une vraie... les gens étaient vraiment furieux. Et je pense que à ce moment-là, pourtant, les études, en particulier celle de Jean Godon, qu'il avait osé intituler, faut dire que c'était assez drôle, Lamartine ou les infortunes de la vertu, avait causé un certain bruit, donc ça ne nous semblait pas très extraordinaire de présenter les deux ouvrages en voisinage. À partir de 1841, Lamartine passe fermement dans l'opposition au gouvernement. Il crée un journal et réfléchit à ses moyens d'action, en retraçant l'histoire des Girondins, doctrinaires sous la Révolution dont il se sent proche. En 1847, il publie en 8 volumes son Histoire des Girondins, œuvre de réflexion d'un homme public engagé, d'historien soucieux de la vérité, mais aussi de poète. Son don pour les portraits, son imagination descriptive, sa sensibilité donnent à l'ouvrage une tonalité romanesque qui séduit un vaste public. Pourtant, c'était 8 gros ouvrages sur l'histoire de la Révolution. Les personnages féminins qu'il affectionne parcourent les volumes avec tendresse, avec panache, avec courage. Certains pourtant y retrouvèrent une trace de ce goût exploité dans La chute d'un ange pour la vision du corps féminin exposé au regard et torturé. Voici l'exécution de Charlotte Corday.
Le ciel s'était éclairci. La pluie, qui collait ses vêtements sur ses membres, dessinait sous la laine humide les gracieux contours de son corps, comme ceux d'une femme sortant du bain. Ses mains, liées derrière le dos, la forçaient à relever la tête. Cette contrainte des muscles donnait plus de fixité à son attitude et faisait ressortir les courbes de sa stature. Le soleil couchant éclairait son front de rayons semblables à une auréole. Les couleurs de ses joues, relevées par les reflets de sa chemise rouge, donnait à son visage une splendeur dont les yeux étaient éblouis. On ne savait si c'était l'apothéose ou le supplice de la beauté que suivait ce tumultueux cortège. Robespierre, Danton, Camille Desmoulins s'étaient placés sur le passage pour l'entrevoir. Tous ceux qui avaient le pressentiment de l'assassinat étaient curieux d'étudier sur ses traits l'expression du fanatisme qui pouvait les menacer demain. Elle ressemblait à la vengeance céleste, satisfaite et transfigurée. La charrette s'arrêta. Charlotte pâlit en voyant l'instrument du supplice. Elle reprit promptement ses couleurs naturelles et monta les marches glissantes de l'échafaud d'un pas aussi ferme et aussi léger que le permettait sa chemise traînante et ses mains liées. Quand l'exécuteur, pour découvrir le coup, arracha le fichu qui couvrait sa gorge, la pudeur humiliée lui donna plus d'émotion que la mort prochaine. Mais, reprenant sa sérénité, elle plaça d'elle-même son cou sous la hache. Sa tête roula et rebondit. Un des valets du bourreau, nommé Legros, prit la tête d'une main et la souffleta de l'autre par une vile adulation au peuple. Les joues de Charlotte rougirent, dit-on, de l'outrage, comme si la dignité et la pudeur avaient survécu au sentiment de la vie. La foule irritée n'accepta pas l'hommage. Un frisson d'horreur parcourut la multitude et demanda vengeance de cette indignité. Cependant, la violation de l'humanité ne s'arrêta pas là. L'infâme curiosité des maratistes chercha jusque sur les restes inanimés de la jeune fille les preuves du vice dont les calomniateurs voulaient la flétrir. Sa vertu trouva son témoignage où ses ennemis cherchaient sa honte. Cette profanation de la beauté et de la mort attesta l'innocence de ses mœurs et de la virginité de son corps.
Dans un tout autre registre, l'apologie de la Révolution surprit. Il s'agit ici des travaux du comité de la Constitution de la Convention où siégeaient de nombreux Girondins.
Ce qui rend la Révolution si grande au milieu même de ses orages, de ses anarchies et de ses crimes, c'est qu'elle était une doctrine. Ses auteurs étaient en même temps ses apôtres. Ces dogmes étaient si saints que si l'on avait effacé de ce code l'impression de la main sanglante qui les avait signés, on aurait pu les croire rédigés par le génie de Socrate ou par la charité de Fénelon. C'est par cette raison que les théories révolutionnaires, un moment dépopularisées par les douleurs dont leur enfantement a travaillé la France, revivent. Et revivent de plus en plus dans les aspirations des hommes. Elles ont été souillées, mais elles sont divines. Effacez le sang, il reste la vérité. C'était quelquefois la folie de la vérité, mais c'était encore la vérité. C'est pour cela qu'il a été et qu'il sera dans l'avenir tant pardonné à ce temps. Nul travail humain n'est perdu, nul sang répandu pour l'idée n'est stérile, nul rêve de la vertu n'est trompé. Les aspirations obstinées du genre humain sont pour la société ce que la boussole est pour le navire. Elle ne voit pas le rivage, mais elle y conduit.
Le grand public fut sensible au lyrisme du texte, au ton général de roman un peu exalté. Mais les survivants ou leurs descendants qui avaient fourni des documents ou des souvenirs contestèrent bien des passages, certaines improvisations. Il y eut énormément de lettres opposées ou de publications contre les détails du texte. Là, Lamartine s'était un peu libéré parce qu'il n'y avait pas eu de description de la mort de Charlotte Corday, donc il avait pu se laisser aller à sa description. Mais pour d'autres morts, les détails qu'il ajouta furent très contestés. Mais surtout, l'ouvrage commençait avec l'intention de soutenir les positions d'un parti de législateurs modérés, s'achevait par la défense de Robespierre. D'où des réactions politiques très vives à l'égard d'un ancien légitimiste, puisque Lamartine avait commencé comme légitimiste et avait eu du mal à rallier la monarchie de Juillet. Vous connaissez les événements de 1948, l'avènement de la République, le courage et les désillusions de Lamartine qui manqua sans doute de réalisme politique. Bien sûr, les caricaturistes autorisés alors parsemèrent leurs feuilles de petits Lamartine, couronnés de lauriers, serrant sa lyre contre sa poitrine, exécutant la tête la première, la chute d'un ange. Vous en avez un là, qui rêve, hein, l'ange déchu, mais il y en a beaucoup qui font la calipette sur les pages des journaux. Ange déchu, il avait toutefois, depuis quelques années, trouvé un véritable ange, puisqu'il l'appelait ainsi, en la personne d'une de ses nièces, Valentine de Cessia. Celle-ci, fascinée par son oncle, renonça au mariage, s'incrusta peu à peu chez lui. Leur relation était à tout le moins ambiguë. Voici un extrait de lettre.
Tu me demandes un récit de mes journées, voici. Je me réveille à 5 heures. J'allume ma lampe. Je prie Dieu et je pense à toi. Je travaille comme un galérien de la plume. Je descends déjeuner, je remonte, je prends un livre pour reposer ma tête, et je pense à toi. Je reçois un ou deux ennuyeux, je m'habille, je sors avec mes chiens, je vais au jardin avec eux, je regarde les fenêtres de la chambre qu'on te prépare, et je pense à toi. Je rentre à la nuit, fatigué, dans la chambre haute. J'allume mes flambeaux, je prends un livre, je regarde le feu et je pense à toi. Je me couche, je lis 1 heure, je m'endors et je rêve de toi. Je me réveille et si je m'endors, j'y rêve. Il n'y eut jamais dans mon vieux cœur une pensée si pétrifiée, si incorporée et cependant si vivante. Ton pauvre cœur bat dans le mien.
Après 1848, Lamartine était totalement ruiné. Pour vivre, il accumula livre sur livre qu'il fallait absolument vendre, donc il fallait plaire au grand public, à celui qui attendait toujours les émotions et les paysages des Méditations et de Jocelyn. En 1849, il publie ses souvenirs de jeunesse en Italie,
de ses amours avec le petit ange ardent comme un diable dans Graziella. Mais il s'élève alors dans la hiérarchie des anges. Il souhaite être séraphique pour ses nièces. La plupart d'entre vous ont lu le récit dans la Bibliothèque verte et déploré avec les lectrices du temps l'abandon de celle qui était métamorphosée alors en pure et innocente jeune fille. Le succès fut grand, mais certains critiques et les principaux écrivains partagèrent l'opinion de Flaubert qui écrivait à Louise Collet.
Voilà un gaillard qui vit continuellement avec une femme qu'il aime et qu'il aime, et jamais un désir. Pas un nuage impur ne vient obscurcir ce lac bleuâtre. Ô hypocrite! S'il avait raconté l'histoire vraie, que c'eût été plus beau. Mais la vérité demande des mâles plus velus que Monsieur de Lamartine. C'est un esprit eunuque. Jamais de ces vieilles phrases à muscles saillants, cambrés et dont le talon sonne.
Je vais passer sur l'abondante production d'ouvrages historiques, politiques, sur les romans à l'usage du peuple et même sur le cours familier de littérature publié 1856 à 1869. Pourtant, dans ce dernier, quelques fragments en vers ou en prose sont encore dignes du grand écrivain. Ses adversaires, politiques ou religieux comme Veuillot, s'acharnèrent encore. Pour survivre, Lamartine, pressé par son épouse et par sa nièce, Valentine, renonça à toute expression politique ou religieuse. Il fallait vendre. On ne pouvait pas arrêter une publication. Donc, éviter toute controverse. En 1860, sous cette même pression, il réédita son œuvre complète. Ce fut l'Hécatombe. Il était pressé par d'autres publications que le cours familier, il y avait la vie d'Alexandre, il y avait deux ou trois romans, beaucoup trop d'ouvrages pour qu'il ait le temps de réviser cette édition. Les deux femmes se déchaînèrent. Tout ce qui avait été critiqué sur le plan moral ou religieux fut modifié ou disparu. Le fameux vers final du lac « Tout disent, ils ont aimé » devint « Tout disent, ils ont passé ». Et pourquoi pas ils ont chanté, disait George Sand. Un livre tourmentait surtout Marianne, l'épouse. Ce terrible poème, disait-elle, de la chute d'un ange. Elle invente alors avoir recours à un grammairien qui la conseille et qui lui dit qu'il faut carrément supprimer l'œuvre. Elle demanda alors à Charles-Alexandre, ancien secrétaire de son mari, d'effacer les mots nudité, volupté. Et elle veut une variante, je la cite, « Pour éviter cette image matérielle, sensuelle, qui gâte l'amour céleste de Cédar pour Daïda au début de la chute d'un ange, que l'apparence d'une enfant demi-nue enflamme ses sens qu'il n'a pas comme ange, c'est un contresens. Si on pouvait mettre vêtu, revêtu, quelque chose qui ne soit pas nu, cela purifierait énormément le poème. » Alexandre explique « Sa pudeur d'anglaise me tourmentait pour élaguer les bacchanales de géants. » Et ailleurs, « Nous faisons un massacre, nous abattons des centaines de vers dans cette forêt vierge. » Parfois, Lamartine échappait à ses contraintes. En 1865, date où il commence un long déclin de 4 ans, il revient à ce cher ange ou démon de Byron dont il publie La vie. C'est pratiquement sa dernière œuvre. Dans ce dernier écrit, il s'évade à l'occasion. Évoquant Teresa Guiccioli, la passion de Byron, il repense à une autre Teresa, toute jeune italienne dont il aima beaucoup la mère en 1819. Il demeure fidèle à son goût pour les très jeunes filles qui commencent à éprouver leur pouvoir de femme et à en user. Toute cette gamme des Antoniella, Laurence, Daïda, Lacmi, jeune poétesse, libanaise et syrienne à peine épanouie, figure charmante des manufactures et des prisons napolitaines. Et je vous laisserai comme dernier texte sur un très beau jeu d'ombre, subtil et même céleste d'après Lamartine, qui se déroule dans une pinède près de Ravenne.
Je me souviendrai éternellement d'une de ces heures sous la pinetta, En société de quelques-unes de ces belles femmes lettrées et musiciennes de la patrie de Rossini, ville de fête, voisine de Ravenne, ville des tombeaux. C'était dans une clairière de la forêt. Le jour baissait. Celle que j'admirais entre toutes et qui ne voyait en moi qu'un étranger passant sous son ombre était debout, nonchalamment adossée à un des pins de la clairière. J'étais accoudé sur le sable à ses pieds. Le soleil, qui descendait rapidement dans la brume rosée de l'Adriatique, n'était plus qu'un globe de feu rougeâtre qui semblait flotter sur les cimes noires de la forêt. Il allongeait sur moi, en se retirant, l'ombre de la belle personne que je n'osais aimer. Je frissonnais à son insu, à ce contact impalpable. Je jouissais de me sentir noyé dans cette ombre, comme si un vêtement céleste avait été étendu sur mon corps par la main des esprits de l'air. À chaque mouvement qu'elle faisait pour changer d'attitude, je suivais imperceptiblement ce mouvement moi-même, pour que son divin visage fût sans cesse interposé entre le soleil et moi, et pour qu'elle fût seule à moi, mon soleil. Elle s'en aperçut, sourit, rougit, changea d'arbre, et donna à ses compagnes le signal du retour à Ravenne. Je marchais silencieux et recueilli derrière elle. Mais le sable fin de la pinetta que ses pieds foulaient, que le vent de mer soulevait sous ses pas, me volait au visage. Je le respirais avec plus de délice que le marin qui s'approche de la rive de Sicile ne respire le parfum de l'oranger. J'en recueillis la poussière sur mon front et sur mes cheveux comme une relique de cette soirée délicieuse sans lendemain. Ombre, sable et vent furent les seuls vestiges de ce jour, n'est-ce pas la vie ?
Anjou démon, Lamartine, il fut capable des extrêmes. Ange parfois en littérature et par certaines attitudes politiques trop confiantes. Cause de scandales, particulièrement dans son œuvre épique et dans son évolution politique. Mais il commença par un angélisme qui fit sa renommée. Pour y demeurer, il subit les contraintes ou les assauts de milieux mondains ou politiques, de fidélité à un certain public, des traditions de sa famille, de dures nécessités financières, des réactions de pouvoir religieux. Mais surtout lui-même entoura son image des évanescences et des aspirations flottantes, de ses méditations répétées, renouvelées, rééditées sans cesse, récitées tout le long du siècle, et que seul le grand public voulait entendre et réclamait, tant il en aimait la petite musique. On oublie trop souvent qu'il fut un homme de courage et d'audace, et qu'à bien des reprises, il se compromit vaillamment dans le combat avec l'ange. Si je peux ajouter un mot personnel, je dirais que pour moi, ça a été un très très grand plaisir d'entendre un homme que j'ai lu, relu, etc., lu par une belle voix qui roule. Et ça, c'est un véritable plaisir. Mais je ne sais pas si ça vous a surpris. Il y a certainement au moins deux textes que personne ne lit jamais. Là, j'adore Valentine de Cessia et les relations de Lamartine avec sa nièce. Et je trouve que la lettre est un chef-d'œuvre de poème en prose. Oui. J'allais dire, n'est-ce pas, pour les futurs lamartiniennes. Et le texte sur Byron aussi. Tout le travail sur Byron a paru dans le Constitutionnel, qui est illisible parce que les lettres dans le journal ont traversé le papier et qu'on ne peut plus lire. Et ça n'a jamais été édité, sauf que je l'ai édité il y a quelques années. Et j'adore le passage, ce dernier passage d'un vieillard, parce que c'est l'année où il commence vraiment à perdre la tête et où il rêve encore de l'ombre d'une jeune fille qui se projette sur le... C'est vraiment, je trouve, une très belle page. En dehors de ça, évidemment, on peut choisir d'autres textes. Si vous avez lu Lamartine, il y a d'autres textes qui ont dû vous frapper. Mais je voulais surtout montrer l'influence des méditations, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné complètement par cette évanescence, ce rythme. Ce qui est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai voulu la citation de Flaubert, pour qu'on voit la différence de ton, qui évidemment est voulue, mais enfin, qui est quand même assez frappante. Comme je suis rouennaise, évidemment, j'ai un faible pour Flaubert. La chute d'un ange, personne ne la lit déjà. C'est garanti. Il faut dire que c'est absolument illisible, c'est une écriture automatique. Pendant 2 années où Lamartine a été député et avec un travail fou, a beaucoup parlé à la Chambre. Et l'été, quand il arrivait à Saint-Point avec les 3 châteaux à gérer en plus, il se levait à 5 heures du matin, travaillait jusqu'à 9 heures. Comme il l'a dit, et pendant 6 mois, les 6 mois d'été, faisait comme ça, sinon le reste de la journée, il fallait qu'il reçoive des gens, qu'il gère des terres. Donc, 2 fois 6 mois, il a écrit les vers les uns après les autres, comme ça, absolument en écriture automatique. Ce qui fait que les vers s'en ressentent, il a fallu en corriger beaucoup pour des raisons de grammaire ou de forme ou de versification, et pas seulement pour les mots qui y étaient, nudité, etc. Il faut dire que l'édition de 1860 est absolument extraordinaire. Et quand il a publié dans ces mêmes années des morceaux choisis à l'usage du bon peuple et des enfants, c'est effroyable, effroyable. Le choix des poèmes et les changements qu'on a fait d'ailleurs en grande partie, parce que accablé de travail, il commençait à être âgé, il ne pouvait plus payer ses secrétaires. Donc ce sont les 2 femmes, faut bien dire, faut être honnête, qui se sont quand même dévouées.